Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Un journal entièrement consacré au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron finit en tête devant Marine Le Pen. Le candidat En Marche est donc idéalement placé pour l'emporter le 7 mai prochain. Il bénéficie du soutien de François Hollande et de celui plus discret des Républicains, tétanisé par l'échec de François Fillon. Dans ce journal, les explications de Yannick Falt et Ludovic Piétenu et l'analyse de notre invité, le politologue Laurent Bouvet. Laurent Bouvet qui reviendra notamment sur le rôle du président de la République dans la campagne de son ex-ministre de l'économie. Les sondages ne s'étaient pas trompés. Le résultat officiel du premier tour de l'élection présidentielle correspond peu ou prou aux chiffres donnés dans les dernières enquêtes d'opinion avant le scrutin d'hier. Emmanuel Macron vire en tête avec 24,01%. Marine Le Pen se qualifie pour le deuxième tour en obtenant 21,3%. François Fillon échoue à la troisième place, 20,01%, talonné par Jean-Luc Mélenchon qui obtient 19,58%. Terrible échec pour Benoît Hamon, réduit à 6,36%. Signalons enfin le score de Nicolas Dupont-Aignan, 4,7%. Il ne franchit pas la barre des 5% qui entraîne le remboursement des frais de campagne. Emmanuel Macron est donc le grand favori du deuxième tour le 7 mai prochain, d'autant plus qu'il engrange les soutiens à droite comme à gauche. Nous allons y revenir. Mais on va d'abord écouter son adversaire du Front National, invité du journal de 20h de France 2 ce soir. Marine Le Pen se met en congé de la présidence du FN. Elle est convaincue de pouvoir créer et la surprise dans 13 jours.
Je n'ai aucune déception. Aucune. Je n'ai que des espérances, car nous pouvons gagner. Et je vais même vous dire mieux, nous allons gagner. Nous démarrons cette campagne à, selon les sondages, 40-60, 10 petits points. Croyez-moi, c'est parfaitement faisable. D'autant plus que M. Macron a un peu bénéficié, il faut bien le dire, d'une forme de brouillard savamment entretenu lors du premier tour. Et là, le brouillard va s'estomper parce que maintenant, nous sommes face à face. Nous ne sommes plus que deux. Et donc, les Français vont découvrir le contenu de son projet, qui est un contenu d'une très grande violence sociale, économique, migratoire. Et là, je pense que beaucoup vont changer d'avis.
Marine Le Pen répondait à David Pujadas ce soir sur France 2. À droite, dès hier soir, François Fillon annonçait qu'il voterait Macron pour faire barrage au Front National. Tout à l'heure, l'ex-premier ministre a tiré les leçons de son échec devant l'état-major de son parti, Les Républicains, LR, qui officiellement appelle à faire échec à Marine Le Pen sans nommer Emmanuel Macron. Car il faut aussi tenir compte des législatives de juin prochain. On retrouve Yannick Falt au siège des Républicains dans le 15e arrondissement de Paris.
La sémantique est parfois une gymnastique. Le parti appelle ce soir à voter contre Marine Le Pen en stipulant que l'abstention ne peut être un choix face au FN, mais pas d'appel à voter pour Emmanuel Macron. François Fillon, lui, ne conduira pas la campagne des législatives. « Je n'en ai plus la légitimité », a-t-il reconnu. « Je vais redevenir un militant de cœur qui va penser sa vie autrement. Le goût et la couleur d'une retraite politique, mais le passé, celui de Nicolas Sarkozy notamment, nous apprend à être prudent. Même si les proches de François Fillon assurent qu'il ne sera pas candidat au sénatorial en septembre prochain, comme l'affirmaient certaines sources. Pas de décision encore sur la direction de la campagne pour les législatives, direction qui pourrait être collégiale. Une mission a été confiée à Christian Jacob, le chef de file des députés, alors qu'Éric Woerth est chargé d'une mission sur le projet de François Fillon qui pourrait être amendé.
Yannick Falt, merci. Si les Républicains ont choisi de soutenir Emmanuel Macron du bout des lèvres, en revanche, François Hollande a opté, lui, pour un soutien sans ambiguïté dans une allocution solennelle depuis l'Élysée. Le président s'est prononcé franchement en faveur de son ancien ministre. « Pour ma part, je voterai Emmanuel Macron », a dit François Hollande en invoquant le risque que Marine Le Pen ferait peser sur l'avenir de la France. Demain, le chef de l'État rendra hommage aux policiers tués par un djihadiste jeudi sur les Champs-Élysées, en présence d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen qu'il a tous deux invités. Ludovic Piétenu, le président, s'invite dans la campagne.
François Hollande joue clairement les chefs d'orchestre des premières heures de cet entre-deux-tours. Il choisit, comme il sait si bien le faire, de donner dans la symétrie, en invitant les deux impétrants, les deux candidats du second tour. Certes, c'est une cérémonie républicaine, mais on peut s'interroger sur l'invitation faite à Marine Le Pen. À l'heure où le chef de l'État appelle lui-même à faire barrage, cette invitation donne le sentiment de banaliser la candidate du Front National, de la placer sur un terrain favorable, qui plus est, un hommage national à un policier tué, la lutte contre le terrorisme. le chef d'orchestre se transformerait-il en apprenti sorcier? C'est un risque, estime un très bon connaisseur de François Hollande, qui ne comprend pas bien ce choix. Quand d'autres font valoir au contraire que cette invitation contraint Marine Le Pen, la place droite comme un i dans une cérémonie où elle doit respecter un protocole très strict, qui d'une certaine façon, alors qu'elle veut mener campagne, la bâillonne. C'est encore une stratégie très propre à François Hollande, celle de s'inviter contre toute attente dans une campagne sur laquelle depuis le 1er décembre, il n'a de toute façon plus de prise et surtout plus de rôle. C'est un chef d'orchestre sans orchestre, un soliste, ironise un élu socialiste. Emmanuel Macron, quant à lui, doit bien faire attention aux gestes du président s'il ne veut pas renforcer cette image d'héritier qu'avait déjà utilisée contre lui François Fillon et que Marine Le Pen va continuer à exploiter.
Ludovic Piétenu, merci. Alors François Hollande vote Macron, les Républicains appellent à faire barrage au FN. Reste le cas de Jean-Luc Mélenchon, le quatrième du premier tour refuse de s'engager en faveur du candidat En Marche. L'homme de la France insoumise est resté silencieux aujourd'hui. Il n'a rien dit sur le Front National et la menace que constituerait l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. Alors que vont faire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon le 7 mai prochain? Une question que Joanne Moison est allée poser à Trémargat dans les Côtes d'Armor, une petite commune rurale du centre-Bretagne où Mélenchon a obtenu 61,5% des suffrages contre 3,5% à Emmanuel Macron, arrivé sixième. On écoute son reportage.
Assis sur une chaise de camping, les bras croisés devant sa petite maison en bois, Marcus, conseiller municipal à Trémargat, fait partie des 88 personnes à avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon sur 173 inscrits. Aujourd'hui, il ne sait pas encore ce qu'il fera le 7 mai.
Je crois que je voterai blanc, mais je ne suis pas décidé à 100%.
Dans son restaurant bio situé dans le bourg de Trémargat, Nathalie, elle, ne se pose pas de questions. Comme la plupart des habitants de la commune, elle a, elle aussi, voté Mélenchon au premier tour. Ce sera blanc au second. Son vote pour Jacques Chirac en 2002 lui a laissé un goût amer.
J'avais voté pour Chirac et après on s'était rendu compte à quel point on s'était fait un petit peu avoir sur ce coup-là. Alors je vais voter dans 15 jours, je sais très bien ce que je vais faire, je vais aller voter blanc. Si Le Pen avait été en tête, j'aurais eu peur et j'aurais été voter Macron à contre-cœur. Mais non, j'ai pas du tout envie de faire partie des gens qui vont lui donner des 80% et puis qu'il aille frimer avec ça après.
Si bon nombre d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon semblent tentés par le vote blanc ici à Trémargat, certains, comme Christophe, déposeront quand même un bulletin Macron dans l'urne.
J'ai voté Chirac, je peux voter Macron. Hein. Je fais quand même une différence entre le centre-gauche et l'extrême droite. Je pense qu'on peut espérer que Macron y passe et qu'après, la lutte contre la politique de Macron se mette en place.
Au premier tour, Emmanuel Macron a recueilli seulement 5 voix à Trémargat.
Joanne Moison de France Bleu, invité de ce journal, Laurent Bouvet, professeur de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir.
Bonsoir.
Je précise que vous venez de publier La gauche zombie, chronique d'une malédiction politique. Alors Jean-Luc Mélenchon, on l'a entendu, refuse pour l'instant d'appeler à voter Macron face à Marine Le Pen. On peut dire qu'il refuse ce que vous appelez la gauche castor, celle qui appelle systématiquement à faire barrage au Front National.
Oui, ça c'est un élément important aussi, c'est-à-dire que, bon, ça c'est un peu des appellations pour marquer les esprits, hein, mais la gauche castor, c'est la gauche zombie qui ne peut pas lutter ou ne sait pas ou ne veut pas pendant des années contre le Front National, n'arrive pas à lutter efficacement et se retrouve finalement à chaque élection prise dans la seule logique possible, c'est-à-dire face au progrès du Front National d'appeler à faire barrage, voilà. Et donc c'est pour ça que j'appelais ça la gauche castor, donc qui n'a pas d'autre choix. Jean-Luc Mélenchon essayait avec sa candidature de proposer un autre choix. Il n'a pas pu aller au bout, parce qu'il n'est pas qualifié, hein, il lui a manqué quelque chose, comme on sait. Mais bon, après sa défaite d'hier soir, puisqu'il n'est pas qualifié pour le second tour, il essaye de prolonger cette logique. Alors est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est bien vu ou pas? On voit qu'il y a beaucoup de débats, y compris autour de lui, et chez ses électeurs, de prolonger une logique d'une gauche qui essaye de lutter sur le terrain, sur le fond, contre le Front National, en allant chercher des électeurs, notamment des jeunes, des milieux populaires, plutôt que de se rallier à voilà, on essaye d'empêcher le Front National de toute façon de parvenir au pouvoir, donc d'être aussi de faire barrage. Est-ce que c'est possible? Ça, c'est une question qui reste ouverte. En tout cas, il a décidé de jouer cette carte-là. Alors le problème, c'est que comme il l'a joué en même temps hier soir, qu'en refusant pendant une partie de la soirée le résultat, en disant mais non, mais il faut attendre, on verra, je suis pas si loin, etc., ça a fait un petit peu mauvais joueur. Donc là, évidemment, il est apparu comme bon, sa stratégie est apparue aussi comme une stratégie de mauvais joueur, ce qui n'est jamais souhaitable en politique.
Laurent Bouvet, sans surprise, François Hollande appelle à voter Emmanuel Macron. Est-ce que Hollande, c'est l'autre vainqueur de ce premier tour?
Alors là, moi, je suis toujours étonné par toutes ces déclarations de Hollande. Finalement, c'est lui qui a tiré les ficelles, c'est lui qui a gagné à travers Macron. Macron est le clone de Hollande, comme si Hollande, entre le cabinet noir contre Fillon et la candidature de Macron, le billard à 12 bandes, était finalement ce Machiavel, ce Deus ex machina qui contrôlait la politique et qui gagnait. Hollande a perdu, même s'il appelle à voter Macron. Hollande a perdu, parce que Macron n'est pas la créature d'Hollande. Macron s'est construit politiquement dans l'opposition à Hollande, en sortant, en trahissant d'une certaine manière Hollande, puisqu'il lui a promis qu'il serait fidèle, etc., puis qu'il est parti quand il a vu que c'était le bon moment. Bon, et, c'est ça la politique aussi, il ne s'agit pas de lui reprocher, hein, c'est comme ça, mais donc ce n'est absolument pas la créature. Et Hollande soutient Macron, évidemment, contraint et forcé, et préfère Macron à tout autre candidat ici, c'est bien normal. Mais François Hollande a perdu d'une seule manière simple et évidente, quand il ne s'est pas représenté à l'élection présidentielle. Un président sortant qui ne se représente pas pour défendre son bilan, et personne n'a défendu le bilan de François Hollande dans cette élection. C'était quand même le grand trou noir de cette élection. Personne n'était là pour défendre le bilan de 5 années. Alors il y avait quelques mesures qui étaient évoquées par Benoît Hamon, par Emmanuel Macron, parce que bon, ils avaient été ministres, etc. Il y avait des choses, ou Taubira, sur la loi, sur le mariage pour tous, il y avait des choses comme ça, mais il n'y avait pas de défense cohérente du bilan. Or, quand on n'a pas un candidat qui défend son bilan, quand on a des ministres qui sortent du gouvernement et puis qui se présentent, voire qui critiquent le président, etc., quand on ne peut pas se représenter soi-même, on ne peut pas dire qu'on a gagné finalement cette élection par procuration.
Et Emmanuel Macron, c'est la victoire d'une sorte de centrisme qui aurait réussi à attirer à la fois des gens de droite et de gauche ?
Oui, alors ça c'est intéressant, c'est la possibilité d'un centre, comme on dit, avéré, ce qui est assez rare dans l'histoire politique française, hein, puisque on peut considérer que le dernier candidat de centre, qui était plutôt centre-droit, c'était qui a réussi, c'est Valéry Giscard d'Estaing en 1974, qui avait réussi un peu une percée comme ça aussi. Oui, très clairement, c'est un candidat qui n'est pas de gauche. Il l'a dit, il a refusé cette étiquette, il va présenter des candidats contre les candidats du Parti Socialiste et de la gauche, mais qui n'est pas non plus de droite, parce qu'il va être aussi face aux Républicains, et il refuse aussi évidemment de plier devant de droite et d'être simplement un auxiliaire ou un parti de centre-droit comme les partis du centre classiquement. Il réussit aussi là où François Bayrou a échoué. Hein, donc c'est une réussite aussi de la possibilité d'un véritable centre, c'est-à-dire qui est ni de gauche ni de droite, qui est et de gauche et de droite, exactement, pour plus précisément, comme le dit lui-même Emmanuel Macron.
Laurent Bouvet, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La gauche zombie, chronique d'une malédiction politique, publié chez Le Mieux Éditeur. On va terminer ce journal spécial présidentiel avec les marchés financiers qui saluent la première place d'Emmanuel Macron au soir du premier tour. Jean-Marc Chardon, les chiffres sont éloquents.
Quand la Bourse de Paris bondit à l'ouverture au-delà de 4%, c'est un mouvement qui est significatif. Et les indices du CAC 40 ne sont pas les seuls à surfer sur les résultats du scrutin. La Bourse de Francfort a elle aussi ouvert en forte hausse ce matin. L'indice vedette, le DAX, gagnant près de 3%, comme la Bourse de Madrid. Celle de Milan a fait mieux encore, à près de 4%. Et partout, ce sont les valeurs bancaires qui ont connu les montées les plus spectaculaires, autour de 7-8% pour BNP, Crédit Agricole, Natixis. Score amplifié par l'image que renvoie Emmanuel Macron, lui-même issu, on le sait, de la banque. Des scores qui montrent que la place de Paris compte à l'échelle européenne, même si elle ne figure pas au premier plan. Pas seulement européenne d'ailleurs, puisque juste avant ces ouvertures en fanfare, eh bien ce sont les bourses asiatiques qui ont terminé dans le vert. Voilà donc les marchés rassurés, au moins pour le temps de l'après-premier tour, à l'inverse de la précédente présidentielle de 2012, où la bourse de Paris avait baissé, mais aussi Francfort et Milan. Il y a 2 ans, c'est François Hollande Hollande qui inquiétaient les mêmes marchés, quoique dans une moindre mesure, contrairement à Nicolas Sarkozy, préféré à l'époque d'Angela Merkel. Aujourd'hui, le candidat qui détient la meilleure cote auprès des marchés, c'est bien Emmanuel Macron.
Jean-Marc Chardon, merci. Le temps demain, la pluie revient avec une perturbation qui va traverser le pays d'ouest en est. Il neigera en montagne à haute altitude. Les températures maximales sont à la baisse, 9 à 15 degrés sur la moitié nord, 15 à 22 au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.